30 temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Journée spéciale sur RFI consacrée à la guerre entre Israël et l'Iran, un nouveau front qui ne doit pas occulter la situation humanitaire à Gaza. RFI vous propose ce lundi de nombreux rendez-vous pour vous raconter le quotidien des Gazaouis et vous décrire les réalités de cette crise qui a fait plus de 55 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Gaza, l'enclave palestinienne ciblée quotidiennement par les frappes israéliennes depuis plus de 20 mois. En représailles, rappelons-le, à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre 2023. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons donc répondre à vos questions. Nous parlerons évidemment de l'urgence humanitaire, de l'accès aux produits de première nécessité, mais aussi de ce qu'il reste du Hamas, du poids de l'autorité palestinienne. Certains d'entre vous nous interpellent sur les négociations d'un éventuel cessez-le-feu. D'autres s'interrogent sur la perspective de la reconstruction de la bande de Gaza. Adel Bakawan est toujours à mes côtés. Merci d'être avec nous ce matin pour cette émission spéciale, chercheur associé à l'IFRI et vous êtes également le directeur de l'Institut européen d'études du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et vous publiez ces jours-ci aux éditions Talendier la décomposition du Moyen-Orient. Nous rejoint pour cette émission spéciale Elena Ranchal, bonjour.
Bonjour.
Directrice des opérations internationales à Médecins du Monde. Médecins du Monde présent à Gaza depuis 2006 exactement. Elena Ranchal, en quelques mots, et vous aurez le temps évidemment en répondant aux auditeurs, quelles activités menez-vous en ce moment dans l'enclave palestinienne et quelle est la capacité de vos équipes sur le terrain à apporter de l'aide aux populations ?
Alors, très rapidement, nous, on a une centaine de personnes, de soignants sur place à Gaza. Et normalement, on a 6 cliniques de soins de santé primaire distribuées un tout petit peu par toute la bande de Gaza. Et normalement, on offre des systèmes de soins, des vaccinations, des consultations à la mère et l'enfant, etc. Le problème, c'est que la situation change chaque jour. Il y a des ordres d'évacuation de façon aléatoire tous les jours. Et on doit réadapter de façon que c'est très différent entre la capacité qu'on a de faire, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qui est vraiment dans la pratique on peut faire. Parce que effectivement, on est contraint par des questions logistiques, des sécurités administratives et on ne peut pas fournir tous les soins et toute l'activité qu'on pourrait les faire.
Et comme le reste de la population de Gaza, vos équipes sur le terrain doivent éviter les bombardements, doivent finalement, elles vivent comme les Gazaouis.
Ah oui, tout à fait. C'est assez représentatif. La seule chose, c'est qu'ils travaillent tous les jours. Ils s'élèvent tous les jours pour, au-delà de la situation horrible qu'ils vivent, ils s'élèvent tous les jours pour pouvoir fournir cet accès aux soins. Mais je peux vous dire que les équipes, moi, j'ai plus des mots. Après 19 mois qui ont dit la situation, c'est catastrophique, c'est horrible. Maintenant, vraiment, je ne trouve pas des adjectifs pour décrire. Ça que je peux vous dire, c'est ça qui nous dit nos staffs où trouver la nourriture, c'est extrêmement compliqué. Tout vrai à voir, c'est extrêmement compliqué. C'est des personnes qui ont été déplacées des forces 6-7 fois. Tout le monde, tous nos staffs, tout le monde a perdu des familières, des restes pendant ces temps-là. Et pour exemple, pour vous illustrer, un de nos bureaux, la semaine dernière, nos bureaux, ils sont signalés à l'armée israélienne comme une ONG, etc. Et c'était un bâtiment de 2 étages. Bon, l'étage supérieur au nôtre, il a été bombardé et les projectiles, ils sont abîmés de façon importante notre bureau. Par chance, ces jours-là, nos équipes, ils n'étaient pas au bureau. Sinon, à ces moments-là, même malgré le fait que nos positions, ils sont archi connues par les différents acteurs, on devrait de regretter des pertes humaines aujourd'hui.
Ouais, effectivement, c'est pour ça que je disais que vos équipes, comme le reste de la population à Gaza, tentent de survivre au bombardement et aussi à la crise humanitaire. Je vous propose de passer au standard Elena Ranchal et Adel Bakawan avec une première question. Bonjour Chibrel. Ah pardon, excusez-moi. Denis, bonjour.
Bonjour, monsieur Aurin.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci, monsieur Aurin. Merci aux auditeurs. Ma question est de savoir, avec cette destruction massive de la bande de Gaza par l'armée israélienne, israélienne. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en reste en termes de population, d'infrastructure ou d'habitat pour cette bande de Gaza.
Bonne question, effectivement, vous posez. Que reste-t-il de la bande de Gaza, Adel Bakawan, quand on voit les images, ce sont les images d'un territoire dévasté, un champ de ruines.
Bah écoutez, tout d'abord, je souhaite vraiment remercier RFI d'aborder encore la guerre de Gaza et ce qui se passe à Gaza. Parce que ces derniers jours, je passe de plateau en plateau et on se comporte comme si Gaza était totalement oublié. Donc merci à RFI, vous gardez bien l'équilibre entre les deux dossiers iraniens et Gaza. L'Iran fait le consensus en termes des pays occidentaux, mais Gaza divise. Pourquoi ? Parce que comme la question est posée, le territoire détruit, la population affamée, déplacée, martyrisée. Israël a gagné énormément en termes de crédibilité, d'image, de symbolisme par rapport à sa guerre contre l'Iran. Mais Israël, tous les jours, perd sur le terrain de Gaza. Oui, il y a 55 000 Palestiniens tués, il y a des milliers, des centaines de milliers blessés, mais les 12 millions Gazaouis, ils sont encore sur leur terre. Mais par contre, ils sont en déplacement permanent, du nord vers le centre, du centre vers le sud, du sud vers le centre, d'un point vers l'autre. C'est-à-dire, on a une population qui est certes là, mais très, très, très fatigué et menacé de la famine généralisée.
Avec les conséquences, évidemment, psychologiques et sur la santé que cela comporte, Elena Ranchal, que reste-t-il de la bande de Gaza pour répondre à Denis en termes de population, de construction ?
Il reste surtout l'envie de continuer à s'évadre et à être des vous. Et effectivement, il y a plus de 54 000 morts, mais ça, c'est les morts officiels. Et ils ne sont pas comptabilisés, par exemple, tous les morts qui sont sur les décombres. Nous, par exemple, Médecins du Monde, nous, on a un collègue qui a été tué tout au début du conflit et qui n'est pas comptabilisé parce qu'il est toujours son corps et celle de sa famille, il est sur les décombres. Il y a plus de 125 000 blessés. Ouais. On a des personnes, autour de 15 000 personnes qui sont en besoin d'une évacuation médicale. Et on parle d'une évacuation médicale à quelques kilomètres. Ils pourraient se faire soigner en Égypte, en Cisjordanie, etc. Et tout ça, c'est impossible. Si on parle au niveau d'infrastructures, et par exemple, infrastructures de santé, il y a 94% des hôpitaux qui sont endommagés ou complètement inutilisés. Et si on parle des soins de santé primaires, des centres primaires, on est autour de 40%. Et la situation, c'est extrêmement compliqué. On voit que, par exemple, la farine, les sucres, et les prix qui sont maintenant, c'est 4 000 fois plus cher maintenant qu'avant les conflits.
Effectivement, le peu qu'on trouve sur les marchés à Gaza coûte extrêmement cher, hors de portée, évidemment, de la classe moyenne, si je peux dire, de Gaza. Justement, vous parliez de produits alimentaires sur les marchés. Il y a Vanik qui a une question à vous poser concrètement sur l'aide humanitaire. Vanik, bonjour.
Et bonjour, monsieur Juan.
On vous écoute.
Oui, je voudrais savoir comment s'organise l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.
Alors, dites-nous, Elena Ranchal, concrètement, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est-ce qui ne peut pas rentrer ?
Ok, c'est une grande mascarade. Hein. Les annonces, les effets d'annonce vraiment qu'a fait Israël sur l'entrée. Il faut savoir que maintenant, il y a seulement un point de passage pour lequel ça rentre, des médicaments ou des nourritures, et ça rentre au compte-gouttes par rapport aux vaisseaux qui sont énormes. On est en train de dire que les jours qui c'est bien, il y a une centaine de camions qui rentrent, mais en général, ils sont inférieurs. Seulement pour vous dire, avant les débuts du conflit, il y avait 500 camions qui rentraient. Alors imaginez, avec les vaisseaux énormes qu'il y a, maintenant, 5 camions, c'est vraiment rien. C'est plus qu'anecdotique. Et ça fait effectivement que quand il y a des choses qui rentrent, il y a des distributions humanitaires qui sont organisées. Pour certains, avec cette soi-disant fondation pour Gaza, qu'il y a d'humanitaire, quel est le nom, et c'est mal organisé. Il y en a vu très bien, effectivement, que ça part en donc des, vraiment des accès des violences importants parce que la population est désespérée. Ils ne sont pas à manger, à voir, ouais, etc.
Et vous parliez justement de la Fondation humanitaire de Gaza, gérée par les États-Unis et Israël, Adel Bakawan. Il n'y a plus que cette Fondation humanitaire de Gaza qui est autorisée aujourd'hui à livrer, en tout cas à fournir l'aide humanitaire aux Gazaouis.
C'est pourquoi on parle, nous les chercheurs, on parle de l'instrumentalisation de l'aide humanitaire afin des objectifs politiques. Autrement dit, malheureusement, cette famine qui se généralise dans la bande de Gaza a été manipulée, utilisée, instrumentalisée pour mettre en place l'objectif du gouvernement, de l'extrême droite du gouvernement israélien, à savoir transformer la bande de Gaza en un endroit non vivable.
On ne peut pas y vivre. L'ONU a raison de dire que cette fondation humanitaire manque d'indépendance et qu'elle n'est pas neutre et que finalement
c'est la raison
principale aucun organe de l'ONU ne doit travailler directement avec
elle. C'est la raison principale pour laquelle le directeur général de cette organisation a démissionné, n'est-ce pas ? Et oui, non, l'organisation, hélas, n'est pas indépendante.
Hubert, bonjour, au Tchad, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous et à mon cher ami Teldi Divenestor, fidèle incontournable de RFI qui nous écoute en ce moment en N'Djamena.
D'accord. Parlons de Gaza, Hubert.
Juan, comment les Gazaouis s'organisent pour avoir accès à la nourriture et à l'électricité?
Voilà, des questions très précises. Elena Ranchal, vous nous parliez tout à l'heure du peu d'alimentation que les Gazaouis pouvaient trouver sur le marché. Comment s'organise-t-on pour trouver du pain, pour trouver peut-être des légumes, pour trouver des boîtes de conserve?
Bon, déjà, il y a certains biens, par exemple, frais des légumes, etc., que c'est vraiment impossible. Vraiment trouver, c'est pas une question d'argent, c'est que c'est vraiment impossible. Au niveau du pain, actuellement, il y a les 25 boulangeries qu'il y avait fournies avec la farine des Nations Unies, des World Food Programme, il y a seulement 5 qui sont disponibles de façon qu'il faut organiser toute la journée en fonction des... Il faut faire des files et des files pendant des heures pour avoir un peu de pain, pour avoir un peu de nourriture, etc. Les rations alimentaires, chaque jour, ils sont à chaque fois plus petits. On voit très bien, nous, avec nos staffs, la perte de poids, par exemple, ils ont souffert, nos staffs, c'est assez visible. Nous, on a publié une étude les mois derniers où on a constaté qu'il y a des chiffres, il y a un des sacs de chaque 5 enfants et une femme parmi 4, ils souffrent tous des malnutritions aiguës. Et ça, c'est important. C'est vraiment des états médicaux qui peuvent se détériorer et qu'ils peuvent entamer après la mort. Alors la situation nutritionnelle, c'est vraiment très préoccupant.
Gaza est l'endroit le plus affamé au monde. Voilà ce que disait il y a moins de 2 semaines le porte-parole du Bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies, Adel Bakawan.
Je voulais juste dire une petite phrase. En fait, on commence à utiliser un concept sociologique d'Émile Durkheim pour décrire cette situation, la gestion de la famine, à savoir le retour à l'organisation mécanique de la société. Cette organisation mécanique, c'était un mode d'organisation sociétale pré-moderne. On revient à cela. Pour ne pas mourir, on passe par la solidarité mécanique.
Et moi, je rajouterais une autre phrase, sous le contrôle évidemment d'Elena Ranchal, qui disait qu'il n'y avait plus de légumes sur les marchés de Gaza. Il faut rappeler, Elena Ranchal, que les terres agricoles sont également la cible des frappes israéliennes.
Tout à fait. Actuellement, c'est estimé qu'il y a 82% du territoire à Gaza qui est militarisé ou sur ordre d'évacuation. Il faut aussi savoir, pour les personnes qui sont écoutées, en fait, Gaza, tout autour de Gaza, les seuls pouvoirs qui gèrent les entrées et les fermées, c'est Israël. Il y a la capacité logistique de faire rentrer des choses. Il y a des camions et des camions et des camions qui sont avec les choses à l'intérieur. Ils sont en train de périmer. Tout est à quelques kilomètres, vraiment à une dizaine de kilomètres. Il y a la capacité logistique. Il n'y a pas la volonté politique. Oui. Ils sont en train de faire mourir les gens qui sont à l'intérieur de Gaza, petit à petit.
Adel Bakawan, Israël, affirme que le Hamas pille l'aide humanitaire internationale.
Pour le moment, il n'y a aucune... Il est possible, il est tout à fait possible, mais pour le moment, cette revendication israélienne n'a jamais été authentifié par un organisme international neutre.
Mmh. On repasse au standard. Marius Trésor, bonjour.
Bonjour, M. Wang Gomez, je dis bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, après 20 mois de guerre sans interruption, quel est le poids du Hamas sur le terrain actuellement ?
Adel Bakawan, que reste-t-il du Hamas ?
Écoutez, pour être vraiment concret, factuel et direct, Hamas, les infrastructures militaires du Hamas ont été détruites à peu près à 80-85%. Aujourd'hui, le Hamas militaire ne représente plus une menace pour la sécurité d'Israël.
Et pourtant,
la guerre continue parce que tout simplement, l'objectif d'Israël n'est pas le Hamas. Même si le Hamas se désarme aujourd'hui, il est peu probable que la guerre s'arrête. L'objectif, c'est vraiment obliger cette population de quitter ce territoire-là pour pouvoir l'annexer.
On estimait avant le 7 octobre à 20 000 ou à combien de combattants du Hamas dans la bande de Gaza ?
Avant le 7 octobre, oui. Entre 20 et 30 000.
Voilà. Et aujourd'hui, combien sont-ils ?
Et aujourd'hui, on n'a que des estimations.
Des estimations, évidemment.
Déjà, les cadres dirigeants militaires Hamas ont été éliminés. Une bonne partie de la base militante formée, entraînée, historique, la base militante détruite. Là, il y a des recrues, on n'a pas des estimations précises, mais on pense que Hamas militaire, autant que danger, autant que menace, n'est plus une menace pour l'existence d'Israël, pour la sécurité d'Israël.
Mamadi, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour la RFI, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Bien, alors, combien y a-t-il de groupes armés dans la bande de Gaza ?
Alors, de groupes armés, oui, on parle exclusivement du Hamas.
Il n'y a pas que le Hamas. Il y a bien évidemment le Hamas. Il y a eu le Hamas. Le Hamas avait la domination totale sur la bande de Gaza, mais il y avait le djihad islamique également, un groupe très, très, très important. Il y a encore des micro-groupes, bien évidemment des micro-groupes qui se revendiquent de la gauche radicale palestinienne, mais bien évidemment, le plus important, c'est le Hamas et le djihad.
Ouais, en même temps, les autorités israéliennes ont reconnu pas plus tard que la semaine dernière, et je parle sous votre contrôle, soutenir, armer un clan palestinien opposé au Hamas.
Oui, absolument. Ce sont des anciens prisonniers, des bandits, des mafias, bien évidemment. Mais le premier ministre israélien trouve ça, c'est tout à fait normal, parce que dans la gestion des rapports de force, il faut trouver des antagonistes qui pourrait, de l'intérieur de Gaza, s'opposer armement au Hamas.
Comment la population de Gaza réagit vis-à-vis du Hamas ? En préparant cette émission, j'ai découvert, alors bon, ça m'a échappé, qu'il y avait de temps en temps des manifestations ici et là anti-Hamas dans
Il y a pour la première fois depuis 2006, parce que depuis 2006, le Hamas a fait son coup d'État dans la bande de Gaza, en excluant l'autorité palestinienne et le Fatah. On commence à assister à des mouvements de contestation très importants. Dans cette guerre, vous vous rendez compte, dans cette guerre-là, dans cette destruction totale, on a des mouvements de contestation dans la rue contre le Hamas.
Avec des slogans « Hamas dehors ».
Voilà, exactement. Ouais. C'est pourquoi, si on organise des élections, il est peu probable que le Hamas puisse gagner ces élections-là.
Je regarde la pendule, il nous reste une minute, il y a encore des dizaines d'auditeurs. Je me fais le porte-parole d'un d'entre eux, fidèle au Tchad, qu'il m'excuse, j'imagine qu'il avait envie de la poser lui-même. Qui dirige Gaza à l'heure actuelle ?
Personne. C'est le territoire nous diriger, nous gouverner. C'est le territoire permis, terra nullus, comme on disait auparavant.
Merci infiniment, Adel Bakawan, d'avoir été avec nous durant cette émission spéciale. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, publié ces jours-ci aux éditions Talendier, La décomposition du Moyen-Orient. Je remercie également Elena Ranchal, directrice des opérations internationales à Médecins du Monde, d'avoir pris le temps ce matin pour nous raconter l'action de cette ONG et le climat dans lequel travaillent les équipes de Médecins du Monde, comme toutes les ONG présente sur le terrain. Merci à tous. Cette journée spéciale se poursuit bien évidemment avec de nombreux rendez-vous tout au long de la journée. On revient quant à nous demain à 8h10 temps universel et d'ici là, prenez soin de vous.
PAC au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes priorité santé, il sera question de l'hypertension.
Hypertension artérielle, maladie silencieuse qui peut avoir de graves répercussions sur la santé vasculaire, la santé cardiaque. La moitié des personnes atteintes ignorent, n'ont pas de diagnostic, d'où l'importance de se faire dépister. Et bien sûr, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions.
C'est à